tous, bienvenue dans Carrément Immo. Carrément Immo, vous le savez, c'est votre émission hebdomadaire dans laquelle on aborde un peu tous les sujets et dans laquelle je reçois deux experts, deux acteurs de premier plan du secteur qui viennent me faire part de leur expertise, qui croisent leurs regards et c'est ça qui est intéressant justement. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux investisseurs particuliers. Quel avenir pour les investisseurs? Quel avenir pour louer en meublé son bien avec l'actualité législative? Et pas que des bonnes nouvelles, justement, on va en parler avec nos deux experts sur le plateau. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Guittard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du groupe Consultim. Vous allez nous présenter dans quelques instants. Et puis Jean-Claude Drier, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Avocat associé chez DS Avocats et vous êtes spécialisé en droit fiscal. On a besoin de vous, maître, de votre éclairage en tout cas. Parce que c'est vrai que voilà, il y a du changement côté fiscalité, notamment pour le LMNP, loueur meublé non professionnel. On va en parler. Alors juste avant, Jean-Luc, pouvez-vous nous présenter donc le groupe Consultim? Que faites-vous?
Absolument. Donc nous avons 30 ans cette année, ce qui est à la fois jeune et qui montre déjà une certaine maturité. Et nous proposons ce que l'on appelle l'immobilier géré, c'est-à-dire celui où le propriétaire aura en face de lui un bail commercial et un exploitant, et non pas un locataire direct. Donc on va trouver là-dedans, évidemment, les fameux EHPAD, les résidences seniors, ouais, les résidences étudiants, les résidences de tourisme, et également ce qu'on appelle les résidences affaires, qui tendent un peu vers cette hôtellerie un peu spécifique. Et donc tout ce monde-là est un monde qui est proposé par l'intermédiaire de réseaux de conciliation de patrimoine, de réseaux bancaires ou de réseaux assurantiels, à des clients finaux, qui sont des clients investisseurs dans ce type d'actifs.
Et alors justement, bah, j'en profite pour faire cette transition. Quel est l'état des lieux et que peut-on faire comme état des lieux justement du marché immobilier locatif en ce début 2025 avec les actualités qu'on connaît, dont on va sur lesquels on va revenir.
Mais côté locataire, bah, on a une baisse à peu près généralisée du nombre d'annonces. En fait, c'est-à-dire que le taux de rotation s'est effondré pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on construit moins. On l'a vu, il y a une crise de la construction, donc c'était généralement comme ça qu'on quittait sa location, donc on devenait propriétaire. Il y avait ce qu'on appelle le parcours locatif, qui était assez cohérent. Donc celui-là, il est en train de s'arrêter assez fort. Je regardais sur des segments comme le logement intermédiaire, on a une baisse du taux de rotation de 15 à 9%, ouais, ce qui est une baisse assez considérable quand on regarde. C'est des chiffres importants. Donc ça, c'est le premier aspect qu'on peut voir, c'est cette baisse. Deuxièmement, on a l'arrivée forte des sujets d'étiquette énergétique,
eh oui,
qui fait sortir du marché des actifs. Donc non seulement on en fait moins. Bon, il y a 35 millions de logements dans ce pays, on en faisait 400, 450 000 par an, on en fait plutôt 250 000. Donc ça se voit, mais c'était pas la cata, mais par le bas, si je puis dire, on enlève des logements. Et enlever des logements, c'est le double effet, et donc ça crée un marché locatif extrêmement tendu. On revoit d'ailleurs, moi j'ai vu ça l'autre jour dans une rue de Paris, la file d'attente de gens qui ont tous un dossier sous le bras, et l'agent immobilier qui essaye de trier, si je puis dire, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais qui se trouve avec 50 candidats pour un appartement, vous comprenez tous que ça, ils n'en choisira qu'un à la fin.
Et ça, c'est vrai que ça s'est propagé aussi. Parce que bon, Paris, moi, j'ai des souvenirs quand j'étais arrivée étudiante, il y avait déjà ces files, mais là, c'est vrai que dans toutes les villes, c'est ça, apparemment.
Toutes les zones tendues sont soumises à cette difficulté. Donc, je quitte plus ma location, je n'accède plus. Ouais. Il y a des grandes villes, hein, des communautés d'agglomérations, de communautés urbaines qui sont très importantes, qui ont réduit le nombre d'agréments, le nombre de développements, le nombre de permis. Et à partir de là, il y a moins de construction, vous avez ça. Et quand on passe le filtre des étiquettes, eh bien, il y a des gens propriétaires qui décident de ne plus louer parce que, notamment, ils ne peuvent pas faire l'investissement. C'est pas uniquement de la mauvaise volonté. Alors, il y a un sujet sur la vacance et on peut en discuter, mais il y a aussi des gens qui disent je ne peux pas faire l'investissement. Et donc, je ne le fais pas et donc je ne loue pas pour ne pas me retrouver dans une situation contrainte avec un locataire. C'est paradoxal.
Alors, maître, il y a la loi Lemeur. On va en parler dans quelques instants. Il y a eu la loi Lemeur et puis il y a eu la dernière loi de finances, le PLF 2025 hein, qu'on attendait, qui est passé. On bouleversait, on va dire, la fiscalité des investisseurs immobiliers. Alors, selon vous, quels sont les changements les plus impactants pour les loueurs en meublé?
Bien, pour les loueurs en meublé, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de modifications ces derniers temps. Donc, les deux grosses modifications concernent les deux catégories fiscales, si vous voulez, dans les loueurs en meublé. Vous avez ceux qui sont au forfait, qu'on appelle le micro. Le micro, c'est un régime forfaitaire. Alors là, il y a eu une chute des abattements forfaitaires. On voit que le gouvernement cherche à faire des économies à ce niveau-là, donc il réduit les abattements. Et de notre côté, il y a les loueurs meublés qui ne sont pas au forfait, ceux qui sont au réel, c'est-à-dire qu'ils déclarent réellement avec une comptabilité commerciale. Et cela, il y a un régime particulier, le régime des amortissements, qu'ils déduisaient et que maintenant le législateur, c'est-à-dire donc nos politiques, ont considéré qu'il fallait réintégrer lors de la plus-value, lors de la vente. Alors, en gros, si vous voulez, ce que vous avez déduit pendant un certain temps, lors de la vente, le législateur veut vous le récupérer. Voilà, c'est ça. Les deux grandes masses synthétiques de ce programme fiscal dans le loueur en meublé.
Donc c'est ce qui impacte le plus les investisseurs en tout cas.
Voilà, en tout cas, ça les impacte comment ? Bah, c'est que techniquement, si vous voulez, il y a plus d'impôts à payer. Voilà, c'est ce qui se passe.
Mais oui. Hein,
voilà, c'est ça.
C'est toujours comme ça. Alors Jean-Luc, votre avis justement sur ces changements, c'est vrai que vous qui êtes au contact de ces investisseurs, déjà, bon, bah, comment ils l'ont pris ? Mal, j'imagine.
Oui, comme toute nouvelle mesure fiscale qui tend à contraindre quelque part, je pense que les gens ont peu apprécié. Alors, après, il y a des niveaux de compréhension. Ce que je retiens, moi, c'est que le gouvernement a quand même apporté un peu de cohérence. Donc les publics dits fragiles, que nous connaissons bien, que sont les seniors, je parle des PAD de RSS, ou les étudiants, qui sont des gens là que le gouvernement, par ailleurs, c'est ça qui est paradoxal, mais aide assez fortement. Et bien là, dans ce cas-là, la mesure qui consistait à remettre ce sujet d'amortissement, comme le disait Jean-Claude, ne s'applique pas. Donc nous, on a une espèce de chance, d'accord, si je puis dire, de se trouver avec des actifs dans notre capacité de production qui ne sont pas concernés, à l'exception des résidences dites de tourisme, puisque là, le touriste étant pas fragile, enfin, j'allais dire en tout cas peu fragile, ça s'applique. Donc le premier constat qu'on a fait, nous, je touche du bois, mais c'est que ça n'a concerné que la partie sur laquelle le gouvernement a une vue qui est discutable, mais qui existe, qui consiste à dire je ne veux plus autre chose que des résidences principales. C'est ça le fond. Madame Le Meur, elle se débat en disant je vais trouver tous les moyens, pouvoir supplémentaire pour le même, décision fiscale, etc., qui vont faire que plutôt que de louer en touristique, en tourisme, je vais louer à une personne qui habite là. Alors dans toutes les zones tendues, ça a aussi un peu de sens, puisque j'expliquais juste avant qu'on trouve plus de logements à louer. Si on disait il y a moins de logements dédiés au tourisme, alors il y aurait plus de logements dédiés à la résidence principale. Et cette politique, elle n'est pas contestable sur le fond, sur la forme. C'est toujours des moyens qui consistent à bouger ici la fiscalité, à donner du pouvoir au maire. Vous savez que jusque-là, dans les villes de moins de 200 000 habitants, on ne pouvait pas tellement agir sur l'installation des fameux, je mets ça entre guillemets, Airbnb. Aujourd'hui, tous les maires ont le pouvoir de décider d'un certain nombre de contraintes. Et après, c'est intéressant parce qu'il y a des maires qui vous disent, j'ai discuté avec un maire l'autre jour qui a des hôtels en gamme assez élevée dans sa commune, mais qui n'a pas d'hôtel de une et deux étoiles. Et donc, il souhaite favoriser la location touristique pour tout ce qui va couvrir cette partie-là, et pas pour le haut de gamme. Voilà. Donc, c'est une vraie décision municipale, pour le coup, qui aura sans doute du sens. Donc, c'est embêtant, parce qu'évidemment, quand vous êtes investisseur, quand un investisseur vous dit que vous allez être plus taxé, en général, il dit, bah, du coup, je vais investir ailleurs, ou je ne vais pas investir. C'est ça le biais, je trouve que c'est le biais principal, parce que c'est mal expliqué, parce que c'est complexe.
Et Jean-Claude, alors, ce qui pose problème aussi, c'est que c'est rétroactif. Je parle par exemple des loyers qui doivent être réintégrés pour le calcul de la plus-value. Est-ce qu'on peut expliquer cette notion-là ?
Il y a deux choses. Hein. Donc, il y a eu des modifications sur le régime forfaitaire qu'on appelle le micro, où là, on est passé à des abattements. En gros, il y a six catégories. En fiscalité, il y a six catégories de loueurs. Voilà, classés en zone tendue, en zone non tendue, etc. Il y en a six. Donc, en gros, grosso modo, il y a eu une baisse des abattements qui tourne à peu près à 50%. Voilà, 50%, je pourrais rentrer dans les détails, parce qu'il y en a un petit peu moins, mais bon, voilà. Donc ça, c'est le régime forfaitaire. Ensuite, il y a le régime du réel, ce dont vous parlez, Bérénice. Le régime du réel, donc, c'est la question de l'amortissement. Oui. Alors, l'amortissement, le principe est simple, si j'ose dire. Il y avait encore un avantage fiscal qui faisait que on pouvait amortir, et quand on amortissait le bien loué, on réduisait notre base imposable, la base imposable du loueur en meublé. Ensuite, lorsqu'il vendait ce loueur en meublé, il n'était plus considéré comme un professionnel, il était considéré comme un particulier. On appliquait ce qu'on appelle la plus-value des particuliers. Et on ne tenait pas compte de l'amortissement. Alors c'est vrai qu'il y a une cohérence, je veux dire, gouvernementale dans ce régime-là. C'est-à-dire que l'amortissement qui a été pris initialement, on va le réintégrer plus tard, parce que le régime est un peu hybride. Voilà. Donc, si j'ai déduit 1000 antérieurement, dans ma plus-value, je vais réintégrer 1000. La question que vous posez, Bérénice, elle est importante, c'est est-ce qu'on doit prendre en compte les amortissements antérieurs ? Alors là, la doctrine administrative, c'est-à-dire les précisions fiscales administratives, elles ne sont pas tout à fait claires et elles ne sont pas tout
étonnant.
À fait développées. Oui, c'est très étonnant. Alors il y a deux écoles, parce que on voit un petit peu partout. Alors il y a ceux qui disent ça sera pas du tout rétroactif, c'est-à-dire que ça s'applique que pour l'avenir, ce qui devrait être le cas, parce qu'on le sait, le principe en droit, c'est que la loi elle ne vaut que pour l'avenir. Mais en fiscalité, c'est une dérogation au principe. Il y a une multitude de lois qui étaient rétroactives. Alors, est-ce que cette rétroactivité va s'appliquer ou pas? On ne sait pas. Pour aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre d'une manière certaine. Pour moi, ce n'est que pour l'avenir.
Hein.
Mais on ne réintégrera pas les amortissements qu'on a pratiqués il y a 10-15 ans, par exemple.
En tout cas, on espère. Alors, ça veut dire que concrètement, si par exemple, moi, imaginons, j'ai un appartement que j'ai en location, ça s'applique à partir de maintenant pour les loyers que j'encaisse maintenant.
Et les amortissements que vous pratiquez, si vous vendez... plus tard, vous aurez la réintégration des amortissements que vous avez pratiqués à partir de 2025.
Ouais. Alors, c'est ça que reprochent notamment les investisseurs au gouvernement. Hein. C'est en fait, ils ont souscrit, on va dire, à un investissement. Ils ont fait un investissement et là, on leur dit ah ben non, finalement, ce ne sera pas comme ça. En fait, c'est ce manque de pérennité sur le long terme, hein, cette vision globale. On va chercher quelque chose. Voilà, c'est vrai que c'est pas cohérent et puis ça, c'est pas. C'est pas propice à l'investissement,
exactement.
En tout cas.
Exactement. Donc, sur les principes, je rejoins exactement ce que dit Jean-Claude. Il y a des questions de principe, rétroactivité, non-rétroactivité. Et puis après, pour motiver quelqu'un, il y a la motivation de l'investisseur. Puis il y a un autre phénomène dont personne ne parle d'ailleurs, qui est la chose suivante. On veut recréer un parc locatif. On a vu ensemble qu'on avait une difficulté dans le parc locatif, qui va d'ailleurs sans doute s'aggraver. Si on veut recréer un parc locatif, il faut donner du temps. Recréer un parc locatif, le dernier des Pinel qui avait été mis en place, vous pouviez sortir au bout de 6 ans. 6 années, vous ne créez pas un parc locatif. Il faut aussi que l'État assume le fait qu'il demande aux investisseurs privés de rester longtemps pour que ce parc locatif se constitue. Si vous restez longtemps, il faut bien qu'il y ait un avantage, un ou plusieurs, mais un avantage qui soit cohérent. Sinon, vous n'investirez pas dans ce type d'actifs, c'est tout. C'est presque, je simplifie un peu à l'extrême, mais c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, si vous regardez ce qui s'est passé, les investisseurs institutionnels, qui étaient des gens qui achetaient jusque-là du résidentiel. Ah ben, ils sont plus là, puisqu'ils ont regardé une instabilité, ils ont vu une instabilité fiscale qui
c'est
quand même assez forte, qui a pesé sur la rentabilité, ce qui est une évidence. Ben, après, c'est des gens qui prennent des décisions assez rationnelles, finalement, et en plus, ce qui est marrant chez les institutionnels, c'est qu'ils prennent tous les mêmes, en général.
Il y en a un qui commence et les autres suivent.
C'est ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Donc, ils sont tous plus ou moins partis, à l'exception de ceux dont c'est le métier. Évidemment, les bailleurs sociaux, les bailleurs intermédiaires, c'est leur métier, donc il leur faut des actifs. Mais en dehors de cela, tous ceux qui étaient opportunistes, donc qui pouvaient choisir entre du bureau, du commerce, de la logistique, eh bien, ils ont dit, j'arrête le résidentiel, parce que... voilà. Ouais. Et donc, c'est un mauvais effet, et il nous reste du coup que les investisseurs individuels aujourd'hui, qui pèsent moins, mais qui pèsent encore sur le développement de ce parc locatif.
Et on a besoin de ces investisseurs, il faut le dire.
On en a absolument besoin dans une logique de pénurie. Si on était très excédentaire en logement, s'il y avait beaucoup de vacances, etc., on pourrait dire, écoutez les amis, on comprend bien, mais on n'aide plus. Si vous voulez investir, vous investissez, mais vous n'êtes plus aidé à l'investissement. Or, ce qui se passe, c'est le contraire. Et si je reviens sur le sujet des amortissements, nous on a fait quelques petits calculs, et ça rend l'investissement... En fait, il faut pas vendre après la 20e année. Parce que là, vous risquez de payer une plus-value qui correspond à peu près à un an de loyer.
D'accord.
On a regardé pour les résidences de tourisme, qu'on connaît bien, et la loi s'applique pas, l'exception sur les publics fragiles ne s'applique pas au tourisme. Donc nous, on a fait quelques calculs, ça vaut ce que ça vaut, parce que c'est toujours une décision, ça dépend, vous avez des cas toujours particuliers, hein, comme il se doit, mais grosso modo, il y a une année de loyer qui disparaît sur 20 ans. Or, c'est à la fois beaucoup.
Ce qui est dommage.
Et à la fois, on peut aussi un peu le relativiser. Ouais. Donc ça pousse finalement l'investisseur à être assez malin dans son arbitrage. Plus il est malin, moins il paye. Hein. C'est assez classique.
Donc grosso modo, il faut revendre avant 20 ans.
Grosso modo, il faut regarder cas par cas, parce qu'évidemment, je ne ferai pas une généralité. Mais si vous regardez bien, si vous mettez un peu d'intelligence dans le sujet, il y a matière à optimiser à nouveau. Mais c'est le but hein, d'un investisseur, à optimiser son investissement.
Et ouais, donc de vendre et de racheter derrière quelque chose.
Voilà.
Voilà. Alors, comme il est précisé là à l'instant, sur le plan fiscal, c'est que la réintégration des amortissements, c'est le principe. Il y a quatre exceptions qui viennent d'être être rappelé, mais ça ne touche pas que y a les résidences seniors. Il y a des résidences. C'est-à-dire, si vous avez investi du meublé dans des résidences seniors, dans des résidences de tourisme, dans des résidences de retraite médicalisées, ou dans des résidences socio-médicales, eh bien, le régime de la réintégration de l'amortissement ne s'applique pas. Donc, il y a quatre secteurs qui sont préservés. Voilà. Mais il ne faut pas se leurrer, hein, comme on le sait avec nos amis de la FNAIM, parce que je travaille beaucoup avec la FNAIM, eh bien, toutes ces modifications législatives n'ont pour but que de pénaliser, malheureusement, un peu plus le secteur immobilier. C'est ça, le secteur immobilier est un secteur qui est extrêmement taxé, hein, qui peut avoir des taxations extrêmement fortes, hein, à 75, même à 100% dans certains cas de figure, dans le loueur. Le loueur nu peut être imposé sur 100%. C'est une démonstration que je fais avec mes étudiants à la Sorbonne.
De ses loyers, hein.
De ses loyers, oui, bien sûr. Pour une raison simple qui frappera peut-être les loueurs en meublé et les loueurs en non meublé, c'est que le loueur en meublé, au moins, il déclare dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Et là, il a le droit, si vous voulez, pour être très synthétique, il a le droit de tout déduire, soit directement, soit par le biais d'un amortissement. Quand on loue nu, les dépenses liées à la location sont catégorisées en trois parties par l'administration fiscale et vous pouvez pas tout déduire. Donc on peut très bien quelquefois faire un investissement de 10 000 euros dans sa location nue et ne pas pouvoir la déduire. Et on va être imposé sur un revenu qu'on pourrait qualifier de fictif. Donc, c'est quand même le comble. Donc, le loueur en meublé, je pense qu'il a une bonne option d'une manière générale et que ce système-là est un peu plus juste de par le traitement fiscal de l'activité.
Mais c'était le souhait de Annaëlle Glumer. Hein. Oui. Elle est venue, là, elle était il y a deux jours sur ce plateau. C'est vrai qu'elle voulait essayer de rendre plus équitable, on va dire, la fiscalité des investissements. Rendre plus équitable, ça aurait pu être aussi favoriser un peu plus la location nue, là, comme vous l'expliquez, plutôt que de taper sur la...
Oui, parce que la plus équitable, c'est taxer plus.
Ouais,
il y a une autre façon d'être équitable, c'est taxer moins.
Enfin, moi, c'est ça, exactement. Voilà, taxer moins et puis peut-être créer d'autres avantages. Ouais. En tout cas, bon, on l'a bien compris pour le loueur meublé non professionnel. On quid du Pinel. Alors, vous l'avez évoqué, c'est vrai que là, le Pinel s'est terminé en décembre, le 31 décembre. Quelles alternatives pour les investisseurs? C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Alors, il y a d'autres dispositifs qui existent. Absolument. Il y a le logement locatif intermédiaire qu'on appelle LLI. Il y a aussi le dispositif de Normandie ou encore Locavantage. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement, Jean-Luc, nous exposer ces trois dispositifs, par exemple? Et est-ce que ceux qui avaient prévu de faire du Pinel, ceux qui auraient aimé envisager, peuvent se rabattre sur ces dispositifs?
Alors, une des vertus du Pinel et de tous ceux qui l'ont précédé, parce que finalement, on avait un nom de ministre en général qui donnait un dispositif, la première chose, c'est qu'il était fait dans la loi.
Oui.
Je pense que sur le plan fiscal, c'est pas neutre. Jusque-là, on avait des lois. Vous parliez du LLI à l'instant. Le LLI, on l'a parce qu'il y a eu un rescrit. Un rescrit, c'est... Jean-Claude le connaît bien sûr mieux que moi. Enfin, lundi, c'est un rescrit. Mardi, c'est un autre rescrit. Mercredi, on peut en avoir un troisième. C'est pas une loi. La loi, on la change pas comme ça. Elle a la force, quand même, de la loi. On a des dispositifs aujourd'hui qui se sont affaiblis, je trouve. Et donc, la confiance de l'investisseur, elle est un peu moins forte parce qu'on vous dit, c'est bien, hein, c'est possible, mais ça peut changer. Ça, c'est un défaut, je trouve, de la politique du logement ces jours-ci. Dans les alternatives, vous avez donc l'immobilier géré, que je connais le mieux, je commence par celui-là, qui a une caractéristique, c'est que vous avez un exploitant avec un bail très long. Donc, en fait, vous avez assez peu de problèmes de locataires, d'accord, mais vous avez renoncé à votre fonds de commerce. En vérité, ça, vous avez acheté un actif immobilier, vous recevez un loyer pour cet actif, mais le fonds de commerce, celui qui l'exploite, c'est l'exploitant qui vous a signé un bail commercial. Et c'est donc à lui qu'incombe une partie des charges d'entretien pour que son fonds de commerce soit valable. On n'imaginerait pas, une résidence de tourisme avec des palmiers qui poussent dans la piscine parce qu'elle n'est pas entretenue. Donc ils feront les travaux, ils feront l'entretien. On voit qu'il y a une nécessité. C'est tout à fait vrai dans un EHPAD, on ne va pas laisser les choses partir à volo pour y loger nos aînés. Donc c'est l'avantage, je trouve, aujourd'hui de ce dispositif. Ensuite, vous avez le LLI. Le LLI, c'est quelque chose qui existe depuis 2014. Le LLI, ça existe quand le marché immobilier libre est cher, zone tendue, que le marché social... par la contrainte qui est la sienne, a des loyers qui sont limités. Et donc, entre les deux, il y a de la place. Et donc là, a été inventé par le gouvernement d'ailleurs et par, historiquement, André Hichet, un sujet qui s'appelle le logement locatif intermédiaire, qui permet de dire à des...
classe moyenne, en fait.
Ouais, classe moyenne, jeunes cadres, enfin, vous aviez, c'est un peu, voilà, tous ces
gens-là. Les gens qui travaillent, hein.
Qui bossent et qui sont capables de payer un loyer quand même plus élevé que le social. Après, vous avez des gens qui ne veulent pas aller dans le social. Bon, mais si on résume, c'est je peux payer pas le libre, mais je peux payer le LLI. Donc, il faut une zone tendue. Et jusque-là, c'était réservé aux institutionnels. Donc, vous avez des entreprises en France dont c'est le métier, puisqu'ils ont une TVA réduite. Et ils ont maintenant, depuis quelque temps, un crédit d'impôt qui rembourse la taxe foncière. Donc, c'était un investisseur institutionnel. Là, un promoteur, d'ailleurs, qui s'appelle Green City, a obtenu un rescrit et a dit on peut le faire aussi pour les particuliers, moyennant quelques contraintes qui sont la création d'une société civile immobilière. Bon, il y a un peu de contraintes techniques, mais c'est devenu possible. En revanche, il faut faire du LLI là où il y a des besoins. C'est-à-dire que si vous faites ça dans des zones où il n'y a pas d'écart entre, ou peu d'écart entre le privé et le social, il n'y a pas la place.
Donc dans des zones tendues?
Ah bah oui. Ça marchera. C'est fait pour ça, en fait. Ça a été inventé pour ça. C'est ça. On ne peut pas le dévoyer en l'installant dans des zones non tendues. C'est à ça qu'il faut faire attention. Mais ça devient un sujet dont la rentabilité, bon, après, c'est une rentabilité plus proche de la location nue, hein, comme disait Jean-Claude. Voilà. Mais c'est un dispositif pas inintéressant. De Normandie, c'est une logique de rénovation. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est dans 222 villes.
Ouais.
Évidemment, dedans, vous n'y trouverez pas Versailles, Neuilly, Cannes, mais vous y trouverez des villes où il y a un besoin. Et à nouveau, le gouvernement fait son boulot, il aide là où il faut aider. Donc le Denormandie, c'est un investissement dit intéressant, mais il faut accepter d'aller investir dans des zones où, objectivement, la croissance de la valeur de l'actif ne sera pas, sauf exception, tout à fait phénoménale. Locavantage, c'est assez simple comme dispositif, c'est je baisse le loyer contre de l'avantage fiscal. Plus je baisse le loyer, donc plus je vais peser sur le loyer, donc plus je renonce à de la rentabilité, plus j'ai de la rentabilité fiscale. Je sais que ça ne se dit pas, mais c'était pour simplifier mon propos. Et donc, ce dispositif est bien, mais vous voyez, la philosophie d'un investisseur immobilier, elle est rarement de minimiser son rendement. Elle est plutôt de le maximiser d'ailleurs, en tout cas de le rendre cohérent avec ce qu'il a souhaité faire. Donc c'est pour ça que ces dispositifs existent et je ne les critique pas. Je rajouterai là-dedans le monument historique et le Malraux, qui sont des investissements assez particuliers, où là, qu'est-ce que vous faites? Vous investissez à un prix assez élevé dans des zones relativement peu tendues, contre un avantage fiscal qui, lui, n'est pas plafonné, hein, ou très peu plafonné, en tout cas, qui permet d'aller chercher de grosses déductions fiscales. Donc, tout existe. La seule nouveauté par rapport au Pinel, c'est que le Pinel, c'était super simple. Bonjour, vous achetez un truc ici, vous avez une déduction fiscale qui est...
Simple, donc accessible à tout le monde.
Accessible à tout. Aujourd'hui, tout ce que je viens de vous expliquer très sommairement, et j'en suis désolé, ça appelle un peu plus de réflexion.
Bien sûr.
Parce que c'est un peu plus compliqué.
Un peu plus de savoir, ou peut-être d'accompagnement.
D'accompagnement, d'information. On est ici d'ailleurs dans une... ça s'appelle Radio Immo, donc c'est aussi pour informer les gens, et c'est très bien. Mais je veux dire, notre travail à tous ici d'information sera beaucoup plus important que ce qui était le Pinel, qui était des dispositifs à la fois anciens, assez simples, assez diffusés, vous voyez. Voilà.
Alors maître, c'est vrai qu'on se met à la place des investisseurs. Fiscalement, comment comparer ces dispositifs qu'on vient d'évoquer avec le LMNP, je parle en termes d'avantages, en termes de contraintes?
Alors, disons que tous ces avantages fiscaux liés, par exemple, on va dire au Pinel et à d'autres, le de Normandie, etc., tous ces avantages avaient un cadre fiscal précis qui jouait dans le temps. Par exemple, le Pinel, c'était 6 ans, 9 ans, 12 ans de location pour avoir certains avantages fiscaux. Si ça n'existe plus, parce que ça n'existe plus, le Pinel vient de mourir. Donc, est-ce que le loueur en meublé non professionnel, c'est votre question, Bérénice, a quand même des avantages à perdurer dans ce chemin-là? Pour moi, oui. Pourquoi? Alors, c'est que en dehors du Pinel, par exemple, qui était très encadré dans le temps, vous pouvez acheter aujourd'hui. Profiter entre guillemets de la baisse de l'immobilier, acheter dans de l'ancien et louer. Donc vous n'avez pas un cadre 6, 9, 12 ans comme pour le Pinel à respecter. Dans certaines villes, vous n'avez pas le problème de l'encadrement des loyers. Et vous pouvez ensuite, d'une manière donc dans le cadre de la comptabilité commerciale, parce qu'il ne faut pas oublier que le loueur en meublé, il est tenu à tenir une comptabilité commerciale. Mmh. Alors ça a des contraintes, mais qui sont pas insurmontables. En général, on passe par un professionnel de la comptabilité, souvent un expert comptable. Je pense que ça doit être proposé par vos services.
Absolument.
Donc il faut avoir un professionnel de la comptabilité qui va suivre ensuite le propriétaire bailleur privé, hein, qui va louer dans le meublé. Et en louant dans le meublé, eh bien chaque année, le gros avantage du meublé, c'est que on peut déduire l'amortissement, on peut passer en amortissement l'acquisition du bien. Si on a un bien qui vaut 100, on peut le passer en déduction. Et c'est logique dans le cadre d'une comptabilité commerciale, parce que c'est considéré comme un véritable commerçant, c'est-à-dire ouais, on déclare dans bénéfices industriels et commerciaux. Donc on déduit le bien, sauf la partie terrain. Voilà, ça c'est une petite subtilité.
Donc le foncier.
Le foncier n'est pas déductible, c'est que l'immeuble en tant que tel. Mais ça, c'est géré par l'expert comptable. Alors, en un mot, c'est pour dire que est-ce que c'est intéressant encore d'investir dans le meublé ? Ma réponse fiscale est de dire oui. Oui, à partir du moment où on choisit bien l'emplacement, parce que le plus important c'est l'emplacement et la pérennité de la location. Bien entendu, il ne faut pas que le locataire nous fasse défaut, ne paye pas, etc. Mais c'est encore un autre sujet.
Alors on parle de ce qui est intéressant. Jean-Louis, vous qui êtes un peu un expert de tous ces dispositifs, quel type d'investissement est le plus porteur, on va dire ? Est-ce qu'on parle des résidences étudiantes, des seniors, des EHPAD ? D'accord. On a évoqué quel tourisme, quels sont le LMNP.
Ce qui est important, c'est de regarder le public sous-jacent. Donc aujourd'hui, si vous faites de la démographie, des personnes âgées, donc qui iront dans des résidences seniors puis dans des EHPAD, hein, c'est comme ça que ça se passe en général, il y en aura de plus en plus. Donc fondamentalement, sur le long terme, c'est une demande qui va augmenter, notamment parce que les exigences du jeu des étiquettes font qu'on va demander à des personnes à un moment de rénover leur logement, et à partir d'un certain âge, dans certaines conditions financières, d'abord c'est plus difficile à financer, les gens ne font pas les travaux. On a constaté qu'au-delà de 75 ans, il est assez rare que les personnes entreprennent des travaux complexes. D'ailleurs, si vous regardez le côté obscur de la force, c'est là où vous trouvez le plus d'arnaques finalement à la rénovation, puisque c'est un peu plus facile que quelqu'un qui... Voilà. Donc il y a ce phénomène qui fera qu'on aura sans doute un décalage un peu plus fort de population vers des logements qui se regroupent. Donc ça a plutôt des vertus.
Une résidence. Les EHPAD, c'est ça.
EHPAD, c'est plutôt la version quand vous rentrez dans une zone de dépendance. Et d'ailleurs, on voit que les EHPAD se médicalisent de plus en plus. C'est le fait. C'est la résidence senior. La résidence senior, c'est on se regroupe, on quitte sa maison ou son appartement trop grand, parce qu'en fait, c'est ça. Vous savez, à 60 ans, on occupe en moyenne 60 mètres carrés. À 30 ans, 30 mètres carrés. Alors on dit, tiens, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est que la famille, quand vous avez des enfants, ils s'en vont. Et en général, vous gardez votre logement et vous restez dans votre logement. Il y a des mutations, hein, mais je veux dire, il n'y a pas tant de mutations que ça. Et donc, vous avez ce phénomène. Et donc, si on réduisait ça, si on réduisait de moitié, mais après, les gens veulent pas déménager, on va pas forcer les gens.
Oui, ça se comprend.
Hein. Loin de moi ce propos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez le phénomène démographique, c'est la seule science molle qui est finalement assez exacte, puisqu'on se gourre pas trop sur la démographie. On fait moins d'enfants, a plus de retraités, etc. Donc ça, c'est les sous-jacents. Les étudiants, aujourd'hui, il y a une forte demande, puisqu'il y a beaucoup de difficultés dans un marché très contraint. Comme les universités ou les lieux d'enseignement sont dans des zones tendues, on a le double effet qui s'applique, et donc il faut créer du logement étudiant. Logement étudiant, il faut aussi regarder peut-être que dans 10 ans, si je regarde la courbe des étudiants d'aujourd'hui, donc depuis les tout petits jusqu'aux plus grands, il y en aura moins. Et donc s'il y en a moins...
Oui, parce qu'il y a moins de natalité.
Il y aura moins de natalité, il y aura moins de besoins. Ouais. Deuxièmement, on voit arriver quand même, enfin, on a tous plus ou moins pu suivre des formations ou des cours par des gens extrêmement brillants qui sont de l'autre côté de l'Atlantique ou je sais pas où, avec une relation qui n'est plus directement physique. Donc il y a des évolutions de ce marché-là. Le tourisme, on est le pays où il y a le plus de touristes dans le monde, donc théoriquement ça devrait durer. On a donc un fort besoin d'équipement touristique dans notre pays. Voilà, donc je pense que nous, ces catégories-là, si vous regardez le sous-jacent, donc qui va louer, vous avez des besoins. Si vous êtes dans une zone très détendue...
C'est ça dépend de la zone, en fait.
Ouais, si vous avez beaucoup de gens qui quittent la zone pour aller chercher du travail ailleurs, etc., bon, bah, son immobilier va nécessairement baisser. Donc, voilà. Ouais. Et l'emplacement, Jean-Claude l'a dit fort, justement, regardez l'emplacement, c'est central. Regardez à qui je peux louer et dans quelles conditions. Location directe, c'est du boulot. Ça change, machin, etc. Location par l'intermédiaire d'un exploitant, ben, j'ai un exploitant, ensuite il se débrouille avec ses clients. Bon, ben, c'est toute cette réflexion. Et puis en fait, in fine, d'ailleurs, moi, investisseur, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux du rendement ? Est-ce que je veux acheter pas cher, faire des travaux pour améliorer la valeur de mon bien. Donc tout ce questionnement-là, il est central dans la décision d'investissement. Il y a pas, c'est pour ça que je peux pas répondre, il y a une bonne décision d'investissement. En vérité, vous devez regarder qu'est-ce que vous allez payer comme charge, comment ça va peser sur votre trésorerie, quelle est la fiscalité, est-ce qu'il y a un système d'amortissement qui va permettre une forme de revalorisation du bien, quel endettement je peux mettre dessus. L'immobilier, c'est quand même un des seuls placements où vous pouvez vous endetter. Vous achetez pas des obligations avec de la dette. Vous achetez pas des contrats d'assurance vie avec de la dette.
Oui, c'est vrai que c'est le seul investissement où on peut lever de la dette.
Ça accède, ça permet à plein de gens d'accéder à un niveau de capitalisation qui est plus fort, je trouve, que tous les autres. Mettre, je sais pas combien de milliers d'euros dans un contrat d'assurance vie, si vous les avez pas, vous pouvez pas les mettre.
Oui, bien sûr. Et on peut pas emprunter pour les mettre.
Non.
Pas encore, en tout cas.
C'est mieux, je pense.
Alors, le temps file. On va quand même terminer avec, justement, vos conseils. Alors, maître, c'est vrai qu'on parle stratégie. Quelle stratégie fiscale conseillez-vous, justement, pour sécuriser un investissement immobilier? On en parlait dans ce nouveau paysage.
Ben oui, Bérénice, vous avez dit le mot, c'est-à-dire déjà sécuriser son patrimoine. La stratégie pour optimiser, l'optimisation, bon, c'est devenu presque un gros mot, hein, et je dis
souvent...
Oui,
c'est triste d'ailleurs.
C'est très triste, c'est très triste. Pourtant, c'est un joli mot. Hein. Mais déjà, ne pas perdre de l'argent, c'est déjà une bonne chose dans, par les temps qui courent. Donc, je dirais simplement que bon, si le Pinel est mort, eh bien, vive le loueur meublé non professionnel. Pourquoi? Pour toutes les raisons que j'ai données, c'est-à-dire que avec encore cette déduction de l'amortissement pour déterminer son revenu locatif, on peut avoir un bénéfice extrêmement écrasé, quelquefois déficitaire, ce qui peut être très intéressant pour éviter une imposition immédiate. Peut-être qu'on la retrouvera plus tard lors de la vente du bien, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais je pense qu'on a encore fiscalement de l'espoir dans le loueur meublé non professionnel.
Jean-Luc, on terminera avec cette même question dans quelques instants, alors pas sur la fiscalité, mais juste pour parler de ces amortissements là qu'on remet,
qu'on réintègre
pour la plus-value. Et j'ai vu passer un article comme quoi quand on détient le bien au-dessus de 30 ans, ça s'annule.
C'est le cas parce qu'à un moment, il n'y a plus d'application.
Même pour la plus-value, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value.
Absolument, on n'est plus dans un régime de plus-value finalement. Voilà. Hein, c'est ça, je parle sous le contrôle de Jean-Claude, plus dans le régime de plus-value. Voilà,
c'est ça. Et quand on est un loueur meublé non professionnel, on est considéré comme un commerçant. Donc on déclare un bénéfice industriel et commercial. Quand on vend, on est considéré comme réalisant une plus-value privée. Et là. Particulière. Et donc, elle est exonérée d'impôt sur le revenu jusqu'à 22 ans et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Voilà, c'est sûr que si vous vendez au bout de, allez, on va dire 31 ans, il n'y a plus de plus-value, donc le problème de l'amortissement ne se posera plus.
Donc vendre avant 30 ans ou après 30 ans. Après 30 ans. voilà. Pour terminer, Jean-Luc, quel conseil vous donneriez aux investisseurs, à ceux qui nous écoutent, qui veulent se lancer?
La première chose, c'est de bien réfléchir à ce qu'est le besoin. Investir dans l'immobilier, c'est investir sur un revenu, finalement, un capital, mais un revenu qui, lui, est indexé sur l'inflation. On a l'IRL ou l'ILC, ça dépend le modèle d'indexation. Beaucoup d'autres placements ne sont pas indexés. Donc, on bénéficie quand même de ce que la croissance ou la non-croissance, mais de ce qui va se passer dans l'ensemble de l'économie du pays dans lequel on investit. C'est un investissement local. Par définition, je ne vais pas investir dans d'autres pays, j'investis en France. On sait qu'aujourd'hui on a pas mal d'épargne, on préférerait qu'elle soit investie un peu plus en France ou même en Europe qu'aux États-Unis. On a vu que 40% des investissements qui étaient faits sur l'épargne supplémentaire des Français partaient outre-Atlantique. Bon, donc on a quand même des sujets, et donc c'est au gouvernement, là c'est pas à moi de décider, mais c'est au gouvernement de faire en sorte que les Français et les Européens, mais surtout les Français, puissent investir en France, ça a des bénéfices à tout point de vue. Ça fait travailler des entreprises.
Bien sûr.
Voilà. Et donc il faut quand même que ce sentiment de dire je place mon argent avec une visibilité soit un sentiment qui soit partagé par tous. L'immobilier le permet. L'immobilier, c'est concret. On peut passer voir où c'est. On peut s'arrêter devant. On peut même le visiter. Il y a beaucoup de placements aujourd'hui qui ne sont pas concrets. Donc, moi, ce que je dis, c'est quand vous êtes en capacité de faire un investissement concret, d'utiliser un effet de levier et d'indexer vos revenus, c'est quand même plutôt des points assez positifs, l'immobilier, c'est plutôt pas mal.
Voilà. Et ben on terminera sur ces belles paroles. L'immobilier, c'est pas mal comme investissement. Merci beaucoup à vous deux.
Merci
d'être intervenus dans Carrément Immo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt.